Radio Prague, les informations.
Dobrý den, bonjour. Le ministre de l'Éducation donne son feu vert au projet européen de laser ELI. Décès du dernier survivant des camps nazis enfermé pour son homosexualité, Rudolf Brazda. Et puis football, Ligue des Champions, le Viktoria Plzeň est qualifié pour le quatrième tour préliminaire. Le projet ELI, Extreme Light Infrastructure, qui prévoit la construction du principal élément d'un laser ultra-puissant unique au monde dans la commune de Dolní Březany, près de Prague. Ce projet a été approuvé par le ministre de l'Éducation, Josef Dobeš, ce mercredi. La Commission européenne qui le financera avait déjà donné son feu vert en avril dernier à la réalisation du projet. Un projet dont le montant est estimé à 300 millions d'euros rien que pour la partie tchèque. Celle-ci reste cependant pour l'heure confrontée au prix élevé des terrains et parcelles nécessaires à Dolní Břežany, le montant estimé de leur éventuel achat dépassant le budget alloué par l'Union européenne. Le projet ELI, qui devrait être opérationnel en 2014, réunit 13 pays membres et une quarantaine d'instituts de recherche et d'universités. Dernier survivant connu des triangles roses, ces milliers d'hommes déportés pour leur homosexualité durant la Deuxième Guerre mondiale, Rudolf Brazda est décédé mercredi à Bentzenheim, dans le Haut-Rhin, en France. Il était âgé de 98 ans. Né en 1913 en Allemagne dans une famille tchèque germanophone, Rudolf Brazda avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en avril dernier, il y a donc quelques mois seulement. Condamné une première fois par le régime nazi en raison de son orientation sexuelle, il avait été expulsé en Tchécoslovaquie en 1937. Après l'annexion de la région germanophone des Sudètes par l'armée du Troisième Reich, il avait de nouveau été condamné à la prison avant d'être finalement déporté au camp de concentration de Buchenwald en 1942, où il porta un triangle rose, symbole utilisé pour marquer les homosexuels. À sa libération en 1945, Rudolf Brazda avait choisi de s'installer en France. Diplomatie, ce sont deux diplomates tchèques qui figurent parmi les 25 nouveaux chefs de délégation de l'Union européenne dans le monde. Il s'agit de Tomáš Uliční qui sera à la tête de la délégation européenne au Soudan et de Robert Kopecký qui dirigera lui la représentation européenne au Guyana. Les Tchèques occuperont désormais trois hautes fonctions au sein de la diplomatie européenne. L'ancienne eurodéputée Jana Hibáčková avait déjà été nommée ambassadrice de l'Union européenne en Irak en janvier dernier. On passe au sport, je vous le disais en titre, avec du football et le champion en titre de République tchèque, le Viktoria Plzeň, qui s'est qualifié pour le quatrième et dernier tour préliminaire de la Ligue des Champions mercredi soir en battant à domicile les Norvégiens de Rosenborg Trondheim, 3-2 à l'occasion du match retour du troisième tour. À l'aller la semaine dernière en Norvège, le champion de République tchèque s'était déjà imposé 1-0. Le tirage au sort du quatrième tour, qualificatif pour la phase de groupe de la plus prestigieuse des compétitions européennes de clubs, ce tirage au sort sera effectué vendredi. Voilà pour le foot, et puis plus d'infos c'est sur radio.cz, vous le savez, notre site, et la météo, le retour du soleil, et puis quelques nuages quand même. Aujourd'hui, jeudi, en République tchèque, les températures varient entre 20 et 27 degrés, c'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin. Et dans une poignée de secondes, vous retrouvez Guillaume Narguet pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la confirmation faite par l'ancien Premier ministre social-démocrate Jiří Paroubek de vouloir créer son propre parti politique. Jiří Paroubek se dit déçu par la politique menée actuellement par la social-démocratie, principal parti de l'opposition au Parlement, et entend donc proposer une nouvelle alternative à gauche. Plus de précisions dans quelques instants. Nous évoquons ensuite une nouvelle façon de découvrir ou de redécouvrir Prague. Depuis peu, une association propose en effet des visites guidées en scooter électrique à destination des personnes à mobilité réduite. Et puis la seconde partie de notre programme sera consacrée à la rubrique du jour. Aujourd'hui, portrait de Lucie Slavikova-Boucher, fondatrice des écoles tchèques sans frontières. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. « Ancien Premier ministre et ancien président du Parti social-démocrate, CSSD, Jerzy Parobek a reconnu mercredi pour la première fois qu'il travaillait bien à la création de son propre parti. En retrait sur la scène politique depuis sa défaite aux dernières élections législatives en mai 2010, Jerzy Parobek, actuellement député, entend ainsi prendre ses distances avec une social-démocratie dont il critique la direction. Un nouveau parti de centre-gauche, avec une politique de principe et convaincante, proposant une alternative qui contraigne la social-démocratie à ne pas trop virer à droite. Résumé en une phrase sur son site internet, telle est l'ambition de Jerzy Parobek. Tout laisse désormais à penser que celui-ci quittera bien prochainement un parti dont il est une des figures de proue depuis son arrivée à la tête du gouvernement au printemps 2005, suite au scandale immobilier qui avait alors contraint le jeune Stanislav Gross à démissionner. Malgré une première défaite aux législatives en 2006, dont il ne pouvait alors cependant pas encore être tenu responsable, Jerzy Parobek est ensuite resté l'incontestable leader de la social-démocratie jusqu'aux dernières élections en mai 2010. Celle-ci s'étant soldée par une victoire insuffisante de la principale formation de gauche du pays pour pouvoir former un gouvernement, le chef de file du CSSD avait rendu son tablier, laissant la voie libre à son successeur, Borislav Sobotka. Mais avant cela, durant ses 4 années à sa tête, Jerzy Parobek a dirigé la social-démocratie d'une main de fer, et c'est précisément ce style autoritaire que beaucoup lui ont reproché, tant au sein de son parti que parmi l'électorat. C'est ce qu'a également expliqué à la télévision tchèque Aleksandr Mitrofanov, commentateur du quotidien Pravo, journal de gauche très proche de la social-démocratie. On l'écoute.
Après une mauvaise période pour la social-démocratie suite aux affaires qui ont conduit Stanislav Gross à démissionner de ses fonctions de chef du gouvernement, Jerzy Parobek a su de façon très intelligente renouer à son arrivée avec le style de Miloš Zeman. À l'époque, en mai 2006, la rhétorique triviale et l'entrisme de Miloš Zeman, ancien leader du parti, ancien premier ministre, était encore dans toutes les mémoires. Ce style arrogant à la Zeman a beaucoup aidé Jerzy Parobek à ses débuts. Mais sa véritable personnalité, qui est apparue progressivement, ensuite plutôt causé du tort à la social-démocratie. Je pense que lors des dernières élections, c'est à cause de Jerzy Parobek que, pour un grand nombre d'électeurs, la social-démocratie est devenue un parti inéligible.
Depuis, la social-démocratie est devenue le principal parti d'opposition au Parlement. Jerzy Parobek considère cependant que cette opposition de gauche ne se fait pas assez entendre et n'est pas assez virulente dans sa critique de la politique menée par la coalition gouvernementale, elle nettement de droite. Déçu donc, mais sans doute également frustré par son rôle de simple député sans réel pouvoir d'influence sur la politique menée par la social-démocratie, l'ancien Premier ministre entre 2005 et 2006 entend donc fonder son propre parti afin de relancer sa carrière et de retrouver un second souffle. Reste que s'il a confirmé l'information, Jerzy Parobek, auquel beaucoup reprochent aussi sa soif de pouvoir, a été très avare en précision, tant sur le programme que sur le nom de cette nouvelle formation ou encore l'identité de ses collaborateurs. Il s'est contenté d'indiquer que les préparatifs seraient achevés au plus tard cet automne, moment choisi pour présenter son nouveau parti au public. Des scooters électriques à destination des personnes handicapées ou à mobilité réduite et des visites touristiques spécialement conçues pour elles. C'est le projet promu par une association pragoise, Anna Kubišta, pour plus de détails.
Avec ses pavés peu praticables, Prague est un casse-tête pour les personnes handicapées moteurs ou à mobilité réduite. Une organisation appelée Accessible Prague, fondée par une jeune femme inspirée par son expérience britannique, s'efforce de proposer des services ciblés à destination de ces touristes un peu différents. Depuis 2007, Accessible Prague conseille les touristes à mobilité réduite, seniors ou handicapés, et les oriente vers les hôtels ou restaurants dits sans barrière en République tchèque, ou encore s'occupe des transferts motorisés nécessaires, comme par exemple depuis l'aéroport. Petite nouveauté lancée en ce mois d'août, des fauteuils roulants électriques ou scooters à destination de clients qui souhaitent visiter Prague accompagnés d'un guide et pas depuis le haut d'un bus à Impérial. Plusieurs circuits touristiques ont ainsi été préparés, comme l'explique Léa Skanderová.
Trois circuits ont été préparés. Le premier permet de découvrir les meilleurs monuments pragois. En passant par le pont Charles et les berges de Malastrana, on se perd dans les petites ruelles. Ensuite, il y a le circuit dans la vieille ville et l'ancien quartier juif. Le troisième s'intéresse à l'histoire moderne tchèque.
po cestě k demokracii, která je zaměřená na moderní české dějiny.
Afin de monter des excursions qui soient à la fois accessibles pour ces scooters, mais aussi intéressantes pour découvrir la ville, c'est tout un travail de repérage qui a dû être réalisé en amont par Léa Skanderova.
J'ai passé des heures et des heures dans les rues de Prague pour concevoir ces circuits. Il fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition, qu'il soit différent, qu'il y ait le plus de monuments possibles. Les problèmes les plus fréquents, ce sont l'absence de rampes pour monter ou descendre un trottoir, ou encore les trottoirs pavés et le système de voies à sens unique.
Avec une vitesse maximale de 12 km/h, les scooters permettent aussi d'amortir le chaos des pavés pragois. Léa Skanderova.
Ce scooter peut aller à la fois sur un trottoir ou sur la route. Mais nous allons éviter la route pour des raisons de sécurité. C'est un véhicule à quatre roues, donc à ne pas confondre avec les scooters qu'on voit par exemple en Italie. Il se dirige manuellement, il est électrique. Et évidemment, nos excursions iront beaucoup plus lentement que la vitesse maximale de 12 km/h.
Alena Brodaová, guide depuis 1999 en tchèque, en anglais et en italien, a eu l'occasion de faire des visites de la ville avec des personnes à mobilité réduite à plusieurs reprises. Elle évalue l'intérêt de ces scooters électriques à l'aune de son expérience.
J'ai essayé le scooter et je dois dire que c'est très confortable. Contrairement au fauteuil roulant habituel, le siège est très confortable. Il y a des accoudoirs, il est facilement maniable. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de s'entraîner spécialement pour apprendre à le manier. Je pense qu'entre les deux vitesses possibles, la plus lente correspond vraiment au tempo de la marche.
Les visites guidées de Prague en scooter électrique sont proposées en tchèque, anglais, allemand, français et espagnol. À l'heure actuelle, 3 véhicules en tout sont à la disposition des usagers. Quant au tarif, la visite guidée la plus chère en scooter s'élève à 2900 couronnes, soit environ 120 euros par personne. Mais le tarif va décroissant lors d'une réservation groupée. Toutes les informations sont à consulter en français sur le site www.scootableprague.com/fr.
Voilà, et puisque tout est dit sur ces scooters électriques prévus pour les personnes à mobilité réduite et qui souhaitent visiter Prague, c'est donc la fin de ces faits événements. Merci de votre attention, mais merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la suite de notre programme, une suite qui est consacrée aujourd'hui aux écoles tchèques sans frontières. Alors Londres, Bruxelles, Genève, Berlin, Zurich et Baltimore, voilà quelques-unes des 15 villes où fonctionnent justement ces écoles tchèques sans frontières, des écoles un peu particulières qui permettent aux enfants tchèques vivant à l'étranger de rester en contact avec la langue et la culture de leur pays d'origine. Les enfants âgés de 18 mois à 15 ans se rencontrent une ou plusieurs fois par semaine, surtout les week-ends, pour des cours et d'autres activités assurées par des bénévoles érudits. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres, Magdalena Rozinková reçoit la fondatrice de ce réseau international, Lucie Slavikova Boucher, qui a lancé en 2007 la première école tchèque, et c'était à Paris. Lucie Slavikova Boucher, 44 ans, est médecin et aussi surtout une femme déterminée. Elle nous parle de son expérience de mère de deux enfants bilingues.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Lucie Slavikova Boucher, vous êtes en France depuis 20 ans maintenant et vous êtes arrivée en France en tant que jeune étudiante en médecine.
Tout à fait. J'étais en fait je pense, une des premières boursières du gouvernement français pour les études de médecine pour la sixième année. Que j'ai fait donc, et après j'ai connu mon mari à Prague juste avant d'aller à Paris.
Votre mari français, vous l'avez connu après.
Voilà, mon mari français, mais il n'empêche qu'après mon année passée avec la bourse du gouvernement français, donc nous étions déjà ensemble, puis je suis revenue finir mes études en République tchèque, et après je suis repartie là-bas. J'ai mis 12 ans à défendre et obtenir l'équivalence de mon diplôme français, de mon diplôme tchèque en France.
C'était pas décourageant
pour vous? C'était totalement décourageant, mais je savais faire rien d'autre, donc il fallait bien que je m'en débrouille. Et puis progressivement, donc j'ai commencé à travailler comme médecin, que je fais toujours à mi-temps.
Quelle est votre spécialisation ?
Je suis radiologue, donc je travaille à mi-temps dans un hôpital public. Et voilà, le reste du temps, donc le deuxième temps complet, je consacre à l'école.
Et vous-même, vous êtes issu d'une famille francophile ou francophone ?
Je pense effectivement un peu francophile parce que mon grand-père, qui était un chirurgien, qui a étudié avant la guerre ou pendant la guerre à Prague, il a fait un stage de chirurgie à Paris, apparemment. Et il a toujours bien parlé français. Et donc peut-être c'était lui qui m'a donné le goût du français. Après, j'ai appris le français au lycée comme ça parce que ça me paraissait intéressant.
Vous avez donc deux enfants. Ils ont quel âge maintenant ?
Maintenant, ils ont 17 et 13. Donc, ils sont bilingues parce qu'ils n'ont pas eu de choix dans leur vie. Et parce que moi, ça me tenait beaucoup à cœur qu'ils parlent tchèque. Et puis, comme on a eu la possibilité de passer une année aux États-Unis quand ils étaient plus jeunes, le grand, en fait, il est trilingue. Donc, voilà.
Et à l'époque, quand ils sont nés, qu'est-ce que vous en saviez sur le bilinguisme ?
J'ai beaucoup étudié la question avec mon mari parce que au début j'avais l'impression que c'est tout à fait naturel. Ben, je suis tchèque, ils parleront tchèque et puis on n'en parle plus. Ça se montrait dans des livres scientifiques quand même un peu plus compliqués que ça et ça s'était prouvé que c'est quand même relativement compliqué parce qu'il faut être vraiment très très systématique. Il faut tenir toujours la même ligne, respecter les mêmes règles et puis c'est une discipline de soi-même, surtout du parent. C'est même parce que finalement l'enfant accepte ce qui est proposé et puis quand il voit que les règles sont parfaitement définies, il les accepte parce que ça le dérange pas. Mais c'est vrai que l'approche systématique et qui ne change jamais est extrêmement difficile parce que c'est vrai, il faut vraiment parler systématiquement sa langue et il n'y a que comme ça que ça progresse. Donc j'en savais un peu, mais ça s'était avéré quand même beaucoup plus complexe. Mais bon, je suis arrivée parce que je suis têtue.
Et vos enfants, ils parlent tchèque maintenant, ils sont totalement bilingues.
Oui, je pense qu'on peut dire qu'ils sont totalement. De toute façon, je pense que le bilinguisme total n'existe pas complètement. Il y a toujours une certaine prépondérance d'une langue, mais oui, ils sont parfaitement bilingues, ils utilisent la langue facilement, ils écrivent, ils la lisent, et surtout, ça les amuse de lire en langue tchèque, donc ça veut dire que c'est acquis de façon profonde.
Vous dites qu'ils écrivent, donc c'est vous qui leur avez appris à écrire, vous avez enseigné en fait le tchèque chez vous ?
Oui. Ça, ils n'ont pas du tout adoré. Et ma fille n'est pas encore complètement sortie de l'affaire parce qu'elle est en quatrième en France. Donc, il lui manque encore 2 ans de cette scolarité obligatoire tchèque, encore 2 années, que je suis prête à finir avec elle et qu'elle est à moitié prête à finir avec moi, mais elle fera. Mais oui, donc je l'ai fait à la maison et donc d'ailleurs de cette expérience est née l'idée de créer l'école et puis de le faire par des bien meilleurs professionnels que moi.
Il paraît qu'il y a des étapes à franchir quand vous élevez un enfant bilingue, qu'il y a des périodes où l'enfant proteste et vous répond, par exemple, vous lui parlez en tchèque, il vous répond en français. C'est ça?
Oui, tout à fait, mais ça, de toute façon, les enfants essaient toujours la voie la plus facile parce qu'ils sont paresseux. Quand on leur permet, après, ça marche. Et puis, c'est ça, d'ailleurs, ce qui tue à la longue le bilinguisme, parce que c'est ça ce qui appauvrit le vocabulaire et qui, finalement, à la fin, ne permet pas aux enfants d'apprendre réellement. Mais oui, il y a des étapes. Il y a des étapes où les enfants ne parlent plus jamais la langue, ils répondent plus jamais dans la langue, mais ils l'entendent. Et puis, si on tient bon, ben, ils vont finir par répondre quand même. Mais ça peut prendre des années. Et je pense que j'ai fait l'expérience avec les miens que la date limite ou l'année limite, c'est quand ils ont eu 10 ans. Parce qu'à 10 ans, ils ont commencé à comprendre que ça sert quand même à quelque chose. Et qu'ils sont un peu spéciaux et qu'ils sont un peu différents des autres. Et qui finalement, ça peut être un peu un avantage. Et plus tard, quand ils ont après 15 ou 16, ils peuvent même penser que c'est sexy, qu'ils savent vraiment autre chose. Donc, mais c'est vrai qu'avant l'âge de 10 ans, c'est plus la lutte qu'autre chose.
Il y a beaucoup de couples mixtes qui renoncent à cette éducation bilingue, d'après vos expériences.
Je ne dirais pas que les couples ou les familles renoncent complètement, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui le font à moitié et qui espèrent que ça, la deuxième moitié se fera un peu toute seule, et en fait ça ne se fera jamais toute seule parce que... Mais à la défense de tous ceux qui le font à moitié, comme je dis, il est vrai que c'est très difficile. Il est vrai que c'est très difficile d'être aussi systématique tout le temps, de ne jamais s'écarter du chemin de l'unique langue, de le défendre finalement par rapport à l'entourage qui ne le comprend pas, de traduire par exemple systématiquement quand les enfants sont petits. C'est vrai que c'est très difficile, et puis la belle famille peut ne pas comprendre, peut ne pas, surtout pour les langues minoritaires comme le tchèque, quand dans le couple l'un des parents parle anglais, personne ne se pose la question, c'est un avantage, mais le tchèque ça paraît absolument pas un avantage potentiellement, donc à la défense de tout cela, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est vrai que la deuxième moitié personne ne la fera, et les enfants l'auront jamais, donc non, ils renoncent pas, mais c'est souvent pas complètement fait.
Est-ce que ça peut aussi causer des problèmes au sein du couple?
Mais je pense que c'est ça la raison pour laquelle il y a certains parents qui le font pas complètement, parce que justement au sein du couple, si le partenaire ne comprend pas la langue, ça crée forcément des tensions parce qu'il se sent exclu. Donc c'est évidemment un projet pour deux, et que le partenaire apprenne la langue et qu'il la comprenne et qu'il la respecte, et que c'est son effort qui fait par rapport à son deuxième partenaire, parce que le partenaire
parce qu'il a épousé un étranger, voilà.
Et tout à fait, donc il faut assumer voilà, et c'est vraiment, et le bilinguisme c'est un projet pour deux parents, c'est pas juste la personne qui parle la langue différente du pays où le couple vit.
Votre mari comprend le tchèque, il parle tchèque?
Oui, mon mari il est mon mari là, il parle tchèque pas extraordinairement, mais il parle, il comprend pas mal, et surtout il m'a toujours énormément soutenu, il a toujours trouvé que c'était important pour nos enfants et même pour lui, donc voilà.
Il y a des parents qui ont peur que le fait de que l'enfant entend ou parle deux ou trois langues différentes peut provoquer des troubles au niveau d'expression, voilà.
Je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui circulent autour de multilinguisme. Il est vrai qu'on dit toujours que les enfants peuvent bégayer, par exemple. J'ai sincèrement fait une recherche un peu scientifique est-ce que je trouve une réelle publication scientifique qui relate les faits sur les nombres d'enfants un peu statistiquement importants. J'ai rien trouvé. Il est possible que quelque chose existe, mais je dirais de mon expérience, qui maintenant commence à être une expérience relativement statistique parce que j'ai vu beaucoup de couples mixtes en œuvre, je pense que quand c'est bien fait, il n'y a aucune raison que ça crée des troubles. C'est possible que les enfants, de mon expérience, les enfants peuvent au début mélanger deux langues et qu'ils commencent une phrase dans une et puis finissent dans une autre. Mais à partir du moment où c'est très clair dans leur entourage comment ça marche et comment ça devrait marcher, ils feront le tri. Mais il est aussi important, c'est pour ça, je dis toujours que c'est un projet à deux, parce qu'il faut que l'enfant voit que c'est bien vécu par tout le monde. Si la langue crée des tensions dans le couple, ben, l'enfant aura des problèmes.
Voilà, c'était donc l'outil Slavikova Boucher. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les écoles tchèques sans frontières, České školy bez hranic en tchèque, sur le site www.csbh.cz. C'est donc avec l'outil Slavikova Boucher que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.